Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous propose de poursuivre la réflexion entamée dans l'épisode précédent au sujet de la transmission des mémoires de guerre, en regardant comment elles sont véhiculées dans le roman familial, mais aussi et surtout comment les fantômes de guerre se transmettent inconsciemment de génération en génération. Une partie de ce qui a été vécu pendant la guerre se raconte et se transmet au sein des familles à travers le roman familial, qui est à l'origine de certaines de nos croyances et qui influence donc notre manière d'appréhender la réalité. Comme le dit le sociologue Vincent de Gaulle-Jacques, notre mode d'emploi existentiel dépend du roman familial qui nous a été transmis. Pour vous donner un exemple, ce n'est pas pareil et ça n'aura pas les mêmes effets sur les générations suivantes de raconter comment le grand-père a été héroïque en cachant des enfants juifs pendant la guerre, ou de raconter que le grand-père a mis en danger sa propre famille en cachant des enfants juifs pendant la guerre. Dans le premier cas, ce sont des valeurs de solidarité, de courage et d'humanité qui se transmettent dans le mythe familial. Dans la seconde version, c'est plutôt la valeur de sécurité et de protection par rapport au monde extérieur qui prédomine. Après la guerre, chaque famille cherche à donner du sens à ce qu'elle a vécu, à faire entrer cette expérience dans son propre cadre de référence, et c'est ainsi que les mémoires de guerre façonnent inconsciemment la manière d'être au monde des générations suivantes. Dans certaines familles, cette mémoire se manifeste par la croyance que tout peut arriver à n'importe quel moment, que rien n'est jamais acquis, que le pire reste à venir. Il faut donc en permanence tout contrôler et tout prévoir. On trouve aussi des familles où l'autre, le voisin ou l'étranger, est d'emblée perçu comme une menace, puisque c'est celui qui peut nous dénoncer ou nous attaquer. Dans d'autres familles encore, on trouve des croyances du type « si tu n'as pas fait la guerre, tu n'es pas un homme », qui peuvent peser lourd sur les hommes des générations suivantes. Dans certaines familles, rien de ce qui se passe aujourd'hui n'est grave au regard du vécu de guerre, et à force de regarder dans le passé, on néglige les souffrances du présent. Dans son livre « Ces familles qui ont la tête à l'envers », Robert Neuburger explique comment, dans les familles où le traumatisme de guerre a détruit le mythe familial, c'est-à-dire où les valeurs et croyances profondes qui unissaient la famille ont été réduites à néant par la guerre, les générations suivantes se consacrent à réparer le passé, par leur soutien aux parents, par leur mariage, par leur métier, par leurs enfants. C'est ainsi que très peu d'enfants de survivants de la Shoah se sont autorisés à verbaliser leurs propres souffrances, leurs propres angoisses, et que nombre d'entre eux ont passé leur vie à essayer de réparer inconsciemment l'histoire de leurs parents. Il y a aussi des familles dans lesquelles on a choisi de renier son identité, d'enterrer sa religion ou d'oublier la langue de ses ancêtres pour mieux se protéger. Ça a été le cas après la Seconde Guerre mondiale pour certaines familles juives qui ont préféré changer leur nom, oublier le yiddish, enterrer leur judéité pour mieux se protéger face à la menace que l'histoire se répète. Mais cette coupure volontaire avec l'histoire familiale, les racines, la culture, qui vient s'ajouter à la disparition effective de la plupart des membres de la famille dans les camps d'extermination, peut être source de souffrance pour les générations suivantes. Il m'arrive d'accompagner des personnes qui souffrent d'un manque d'énergie vitale, un manque d'allant dans la vie, et qui découvrent en travaillant sur leur histoire familiale que la coupure totale avec leur passé familial les prive de leurs racines, et par là même, d'une partie de leur identité. Les mémoires de guerre imprègnent donc l'histoire familiale à laquelle nous sommes tous inconsciemment fidèles. Cette loyauté familiale au vécu de guerre peut s'exprimer de différentes manières et être plus ou moins pesante. Ce peut être par exemple l'impossibilité d'être en couple avec un Allemand, ou même de voyager en Allemagne pour les descendants des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Cet exemple vous paraîtra peut-être un peu cliché, et pourtant c'est une situation que je rencontre assez souvent. Cette loyauté peut aussi s'exprimer vis-à-vis d'un ancêtre qui a réalisé des choses exceptionnelles pendant la guerre. Je pense par exemple à des faits de résistance ou à ceux qu'on appelle les justes qui ont caché des juifs au péril de leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour certains, cette loyauté, au lieu d'être stimulante, peut être écrasante, paralysante, et leur laisser le sentiment de ne jamais être à la hauteur de l'ancêtre idéalisé, ou le sentiment d'avoir une dette de vie pour ceux qui se sont sacrifiés pour leur famille. Certains resteront toute leur vie en loyauté aux souffrances de la famille, c'est-à-dire qu'ils ne s'autoriseront jamais à profiter pleinement de la vie, à être heureux ou tout simplement joyeux. Enfin, la guerre peut aussi laisser des traces dans les habitudes de vie. Ainsi, dans certaines familles, on apprend l'allemand, car c'est la connaissance de cette langue qui a sauvé les grands-parents ou arrière-grands-parents dans les camps de concentration. Certains mécanismes de défense sont transmis sans qu'on ne sache plus vraiment d'où ils viennent. J'ai ainsi accompagné une femme d'origine arménienne qui n'arrivait pas du tout à retenir les noms de famille, ce qui lui posait beaucoup de difficultés dans son métier. En étudiant de plus près son histoire familiale, elle s'était souvenue que son grand-père avait été obligé d'oublier son nom de famille pour survivre après le génocide arménien. Les mémoires de guerre se transmettent aussi et surtout de manière invisible, à travers les secrets, les non-dits, toutes les émotions qui n'ont pas pu s'exprimer parce que le vécu était trop terrible ou honteux, parce qu'il n'y avait personne pour écouter, parce que c'était parfois plus simple de tout enfouir pour tenter d'oublier. Ces émotions comme la honte, la colère, la tristesse, le sentiment d'injustice se transmettent dans l'inconscient familial de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un les mette à jour. J'ai évoqué ces mécanismes de transmission dans les épisodes sur les secrets de famille et les transmissions invisibles. Avant de vous donner quelques exemples de ces transmissions invisibles des mémoires de guerre, j'aimerais encore insister sur le fait qu'il n'est pas possible de faire des généralités concernant les effets de la guerre sur les générations suivantes. Chaque situation est unique, chaque manière de vivre la guerre a été particulière, en fonction non seulement de la place depuis laquelle on l'a traversée, de sa personnalité, des liens d'attachement qui avaient été créés dans l'enfance, du soutien qu'on a ou non rencontré pendant et après la guerre, de la possibilité de mettre ou non des mots sur son vécu. Bref, quand on s'intéresse aux mémoires de guerre, il est important de recontextualiser et surtout de se rappeler que si la connaissance des événements en eux-mêmes peut nous permettre de toucher du doigt ce qui a été vécu, le plus important, ce qui se transmet aux générations suivantes, c'est la manière dont cela a été vécu. C'est l'émotion qui se transmet, et plus particulièrement, l'émotion qui n'a pas été dite. Et je fais ici une petite parenthèse au sujet du silence qui suit bien souvent les périodes de guerre. La plupart des guerres et génocides sont suivis d'une période de non-dit collectif sur ce qui s'est passé, qui entraîne un déni ou un refoulement des émotions au niveau individuel. Je vous ai parlé dans le précédent épisode du silence qui a prévalu dans les familles et au niveau collectif après les deux guerres mondiales. Le silence a prévalu aussi pour les soldats au retour de la guerre d'Algérie. Silence sur les tortures, silence sur un vécu traumatique, qui, comme l'explique l'historienne Raphaël Branche, trouve son origine à la fois dans l'horreur de ce qui a été vécu et la volonté de reprendre une vie normale, mais aussi dans le déni de l'État français, qui est venu renforcer l'impossibilité de parler pour ces jeunes hommes. Comment dire ce que personne ne voulait entendre ? D'autant qu'ils avaient eux-mêmes dans leur famille bien souvent un père ou un oncle qui avait fait la Seconde Guerre mondiale et un grand-père qui avait combattu pendant la Grande Guerre, au regard desquels ils ne pouvaient se permettre de comparer leur propre expérience. Elle raconte que beaucoup lui ont dit s'être sentis comme des petits rigolos au sein de leur famille par rapport à ceux qui avaient fait la vraie guerre. Quand on parle de silence, c'est aussi le silence collectif qui a prévalu, en tout cas au départ, autour des génocides arméniens et rwandais. Toutes ces émotions gelées par le silence sont enfermées dans ce que les psychanalystes Nicolas Abraham et Maria Torok ont appelé une crypte, ce qui aura pour effet de créer ce qu'ils ont appelé un fantôme dans les générations suivantes. Ces fantômes de guerre, qui sont en quelque sorte des émotions héritées des générations précédentes, peuvent se réveiller à l'occasion d'une date anniversaire, ou lorsque la personne atteint l'âge que son ancêtre avait au moment du drame, ou encore lorsque des images d'actualité viennent faire écho à ces émotions enfouies, comme c'est le cas pour certains d'entre nous depuis le début de la guerre en Ukraine. Ces fantômes de guerre peuvent se traduire dans les générations suivantes sur le plan psychique par l'envahissement par des états émotionnels qui ne trouvent pas leur origine dans le vécu de la personne, notamment par des phobies ou des angoisses inexpliquées, un sentiment permanent de catastrophe imminente. Parmi ces états émotionnels, on trouve aussi la tristesse, cette tristesse infinie que certains d'entre vous ressentent sans raison apparente et qui est en lien avec le deuil impossible. La mort inacceptable de très jeunes soldats, l'absence de corps de ceux qui sont tombés dans les tranchées ou des victimes des camps de concentration et d'extermination de la Seconde Guerre mondiale, la mort brutale et terrifiante de toutes les victimes de génocide, les disparus de la guerre, ceux dont on ne sait s'ils ont déserté ou s'ils sont morts sur le champ de bataille, sont autant de facteurs qui bloquent le processus de deuil dans une de ces étapes, la colère ou la tristesse souvent. Ces deuils non faits peuvent se traduire dans les générations suivantes par un sentiment permanent et profond de tristesse non expliqué, un manque d'élan vital, des états dépressifs ou une impossibilité à faire ses propres deuils. Dans certaines familles, c'est la culpabilité du survivant qui se transmet. Culpabilité des rescapés, mais aussi plus largement, culpabilité inconsciente d'avoir échappé à la guerre, parce qu'on s'est caché, parce qu'on s'est enfui, ou du fait du hasard tout simplement. De sorte que les générations suivantes portent en elles, inconsciemment, un sentiment d'être coupable de vivre. Il peut se manifester par des conduites d'auto-sabotage, des difficultés à aimer, à vivre, à être heureux, à profiter des plaisirs de la vie, comme si cette vie devait impérativement servir à quelque chose. C'est pour certains aussi la culpabilité éprouvée à l'égard d'une personne qui a été victime de la guerre en raison de leur propre choix. Je pense à mon arrière-grand-mère qui avait dit à mon grand-père de mettre sa parka verte bien chaude lorsqu'il s'est rendu à l'appel des nazis sur la place principale du village. Et qui a été pris justement parce qu'il portait cette parka verte, puisque c'était la même que celle que les maquisards portaient lorsqu'ils ont attaqué quelques heures auparavant un convoi nazi. J'ai porté longtemps en moi cette peur étrange de déclencher quelque chose de très grave et de ne pas pouvoir revenir en arrière. Le poids de la culpabilité, il concerne aussi tous ceux qui ont été obligés pour survivre ou pour protéger leur famille de faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire et qu'ils ne se pardonnent pas. Je pense par exemple aux malgré eux, ces 130 000 soldats alsaciens et lorrains qui ont été forcés à s'enrôler dans l'armée allemande et la Waffen-SS. La bande dessinée Le Voyage de Marcel Grob montre bien comment certains de ces hommes ont été hantés jusqu'à la fin de leur vie par la culpabilité d'avoir pris les armes contre leur propre pays. D'autres émotions peuvent être transmises, comme la colère ou la honte. Dans son livre sur les enfants cachés, Nathalie Zage évoque la rage de certains enfants cachés, cette immense colère d'avoir assisté impuissant à toutes sortes d'atrocités commises à l'égard des Juifs. La honte aussi, lorsqu'elle n'est pas mise à jour et élaborée par la personne qui la ressent, se transmet. Honte d'avoir eu une liaison avec un Allemand pour ces femmes stigmatisées à la libération. Honte d'être un enfant de collaborateur ou de nazi. Honte des exactions commises pendant la guerre d'Algérie. Cette honte se transmet de génération en génération et ceux qui l'éprouvent dès leur enfance ne la comprennent pas puisqu'elle ne leur appartient pas. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Enfin, dans certaines situations plus complexes, c'est un mélange d'émotions contradictoires qui se transmet. C'est le cas par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, pour ceux dont les parents ont été victimes de la guerre et qui ont appris bien plus tard qu'ils avaient été dénoncés par d'autres membres de la famille, ceux-là même qui les avaient recueillis enfants lorsqu'ils étaient orphelins après la guerre. On retrouve là la double contrainte décrite par l'école de Palo Alto, qui peut être à l'origine de troubles psychotiques dans les générations suivantes. Les fantômes de guerre se retrouvent aussi dans les cauchemars des enfants, qui rêvent jusqu'à 4 générations après du traumatisme de leurs ancêtres sans pourtant rien en savoir. C'est le cas notamment des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de déportés, dont certains font des cauchemars photographiques des convois vers les camps de concentration. Beaucoup de thérapeutes écrivent aussi les cauchemars des descendants des victimes du génocide arménien. Dans son livre « Ces enfants qui veulent guérir leurs parents », Bruno Clavier donne l'exemple d'un petit garçon de 10 ans qui dit se sentir ni mort ni vivant, et qui rapporte un rêve dans lequel il évoque, sans pourtant le connaître, le scénario du massacre de sa famille 4 générations avant lui pendant le génocide arménien. Dans son rêve, il décrit plus précisément comment son arrière-grand-père s'en est miraculeusement sorti à l'âge de 10 ans grâce à un coup de sabre qu'il a laissé pour mort, alors qu'il était bien vivant. Ce sont parfois des images qui se transmettent à travers des mécanismes complexes que Serge Tisseron évoque dans l'ouvrage « Le psychisme à l'épreuve des générations ». Ces images violentes et terrifiantes envahissent les rêveries diurnes des enfants, comme le révèle le témoignage d'Hélène Epstein que je vous ai lu dans l'épisode précédent. Enfin, les fantômes de guerre peuvent aussi se manifester sous forme de symptômes physiques dans les générations suivantes. De nombreux cas d'anorexie ont ainsi été décrits parmi les descendants des survivants de la Shoah, comme une répétition symbolique des souffrances non dites des générations précédentes. Les travaux d'Anselin Schutzenberger lui ont permis de mettre en évidence une répétition de symptômes se manifestant à des dates anniversaires chez les descendants de soldats de la Première Guerre mondiale. Des cauchemars terrifiants, des manifestations de toux et de quasi-asthme, même chez des enfants de la quatrième génération après Verdun. Elle donne l'exemple dans son livre « Aïe mes aïeux » d'une petite fille de 3 ans qui avait des cauchemars récurrents qui la réveillaient presque toutes les nuits en hurlant et en toussant jusqu'à s'étouffer. Elle raconte qu'elle a demandé à la petite fille de faire un dessin de son cauchemar et que ce dessin représentait un masque à gaz alors qu'elle n'en avait jamais vu. En recherchant dans l'histoire familiale, elle a découvert que son grand-oncle a été gazé à Ypres et que son arrière-grand-père avait fait Verdun. Une fois cette histoire familiale mise en mots en famille, en présence de la petite fille, les cauchemars et la toux ont cessé instantanément. Et Anne Ancelin souligne que cette petite fille était née un 26 avril. L'attaque au gaz à Ypres a eu lieu les 22, 25 et 26 avril 1915. Alors comment mettre à jour les mémoires de guerre de sa famille? D'abord en s'intéressant de plus près à ce que vos ancêtres ont fait pendant la guerre. Quand l'histoire est trop douloureuse, elle peut être cachée ou bien racontée, mais de manière très vague, très floue, sans aucun détail, de sorte que personne n'en mesure la portée émotionnelle. Et je remarque souvent pendant mes consultations que beaucoup ont seulement quelques bribes d'informations au sujet du vécu de guerre de leurs parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. En réalité, quand l'histoire pendant la guerre est traumatique ou lourde émotionnellement, il est difficile pour les descendants de la questionner tant ils sont inconsciemment en loyauté au non-dit familial. C'est ce que Lola Lafond décrit très bien dans son dernier ouvrage, quand tu écouteras cette chanson, quand elle dit « Je suis celle qui, depuis l'adolescence, détourne les yeux, celle qui ne regarde pas de documentaires sur la Shoah, celle qui n'a lu que peu de livres à ce sujet. Je suis celle dont le cerveau se brouille dès lors que le sujet est abordé. » De nombreux psychothérapeutes et psychanalystes considèrent que la connaissance de la réalité historique est une étape indispensable à la guérison des générations suivantes. L'accompagnement avec un psychogénéalogiste ou psychanalyste transgénérationnel permet de mettre à jour ces mémoires de guerre dans un espace sécurisé et contenant, de voir comment elles sont agissantes en vous et de vous en libérer ou d'y donner du sens dans votre propre vie, car il y a des mémoires dont on ne se libère pas, mais dont on peut faire quelque chose pour soi-même dans un processus d'intégration de son héritage transgénérationnel, pour reprendre le terme du psychothérapeute Thierry Gaillard. Les constellations familiales transgénérationnelles, dont je vous parlerai dans un prochain épisode, peuvent aussi être un bon outil pour explorer et libérer les émotions en lien avec les mémoires de guerre. C'est d'ailleurs pour soigner un ensemble de troubles psychiques et physiques en lien avec la guerre que l'Allemand Bert Hellinger a créé les constellations juste après la Seconde Guerre mondiale. En plus de la reconnaissance du trauma au sein de sa famille et des traces qu'elle a laissées en soi, tous les psychanalystes et psychothérapeutes qui ont travaillé sur le sujet soulignent l'importance de la reconnaissance collective et sociétale des événements et de l'affiliation à un groupe porteur de son univers d'origine comme voie de guérison. Voilà pour ces quelques pistes de réflexion autour des mémoires de guerre. Vous trouverez dans la description de cet épisode les ouvrages que j'ai mentionnés ou sur lesquels je me suis appuyée. Et si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou au cabinet, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. À bientôt! Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.